Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Hier, nous avons ouvert nos Bibles, et avons médité richesse et pauvreté à la lumière de l'économie shabbatique et jubilaire. Nous avons vu que l'esprit jubilaire n'a pas lâché la pratique de l'Église primitive, et qu'aujourd'hui, ce même esprit doit nous animer, nous tous qui aimons le Seigneur Jésus et son avènement. Elle peut paraître un petit peu excessive parfois, cette éthique, et Jésus a raconté des histoires qui paraissent un peu excessives, au moins à l'échelle de nos entendements d'aujourd'hui. Il y a tout au long de l'histoire de l'Église des histoires excessives qu'il serait bon de rassembler pour qu'elles nous interpellent encore aujourd'hui. Comme historien de l'anabaptisme, je ne veux pas faire l'économie de vous en raconter une courte. Il s'agit d'un homme inconnu. On ne connaît pas son nom. Ça se passe aux Pays-Bas. C'est au début de la Réformation. Il y a là des gens qui ont été touchés par Jésus et sa perspective. Et puis, notamment cette personne. Et puis, en ce temps-là, il était redoutable de professer l'appartenance à Jésus et à sa perspective. Et bien nombreux de nos frères et de nos sœurs, dans le temps, pas loin d'ici, ont donné attaché. Et comme de coutume, il y avait des gens autour. Et il y a cette histoire extraordinaire, comme ça, que l'on retrouve dans un coin d'archives. Une fois au bûcher, et c'était avant qu'on leur arrache la langue ou qu'on leur mette un galon en fer rouge dans la bouche pour qu'ils témoignent, pardon pour les émotions, il criait « Arrêtez ! Ne me brûlez pas tout de suite !» On comprend, hein ? Mais il a ajouté « Je vois dans la foule, un homme qui n'a pas de souliers. » J'en ai une bonne paire de souliers sur moi. Pourquoi les brûler? Ôtez-les-moi, donnez-lui, puis faites votre besogne. » Des histoires excessives. Chers frères et sœurs en Jésus, nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19e, des versets 1 à 28, comme hier je lirai dans la version du semeur. Vous pourrez aussi suivre sur les écrans. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme, Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui en donne 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. En effet, il se rapprochait de Jérusalem. Voilà donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi. Avant de revenir ensuite dans ses états, il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour ». Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous ». Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays. Il fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a ramené 10 ». « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Et finalement, un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Toi, tu retires de l'argent que tu n'as pas placé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Vaut rien, dit le maître. Tu viens prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec des intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or. Donnez-la à celui qui en a eu 10. » « Mais Seigneur, il a déjà 10 pièces. » Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. D'autre part, amenez-moi ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, que Dieu fasse fructifier sa parole dans nous et par nous. Nous avons choisi cet extrait de l'Évangile car, à notre sens, il illustre adéquatement ce qui se passe lorsqu'une personne riche, ou moins riche, remarquez-le, commence à investir dans les valeurs du royaume de Dieu. Ce que nous avions appelé la koinonia, hier, qui a une dimension économique. Ce royaume que Jésus, le Messie, en voie de se faire introniser, est venu inaugurer. Un homme reçoit Jésus, le Messie, et à cause de sa grâce, Zachée entre dans cette sphère de la koinonia. Cette grâce touche toutes les potentialités pour que d'autres, à leur tour, soient incorporés dans la koinonia. Durant les minutes qui viennent, vous avez le loisir de regarder les fenêtres, vous pouvez maintenant, il y a normalement, sauf les premières, un épi de maïs. Regardez. Les plus débrouillards parmi vous se saisissent de cet épi et prennent un grain de maïs qui représente la mine en question, parce que c'est à peu près l'équivalent en or, mais ce n'est pas de l'or, de ce que le Seigneur confie à chacun. S'il vous plaît, faites passer, il y en a assez pour 5 fois le nombre que l'on est, à la fois ici et au sous-sol. Vous pourrez le mettre dans vos mouchoirs si vous voulez, en tous les cas dans vos mains pendant une petite demi-heure, j'en serai ravi. Servez-vous, c'est à droite, c'est à gauche, vous pouvez bouger. J'ai glané ces épis comme Ruth l'avait fait et avait le droit de le faire en Israël pour les pauvres. Après le passage de la machine, vous ne pouvez pas savoir ce qui reste encore dans nos champs. Ce n'est pas les plus beaux épis, c'est ce qui reste. C'est comme nous, hein. Ça vient d'Alsace. Revenons au texte. Certains éléments de cette narration nous semblent pertinents par rapport à notre sujet. C'est un autre style que de partir sur des textes de loi, de la sainteté économique. Mais il me semble pertinent. Tout d'abord, un petit éclairage par rapport à l'évangile selon Luc. Pardon pour le détour, mais c'est nécessaire. Ensuite, il faut bien que je justifie devant vous le découpage que j'ai fait pour la lecture. L'évangéliste Luc a à cœur de présenter Jésus et la mission des apôtres au monde grec, hellénistique. Et c'est à ces chrétiens de la culture grecque qu'il a à cœur de redire les choses de Jésus et son projet. Luc est un chrétien fermement attaché à Jésus et à son œuvre qu'il appelle de salut ou de royaume, si vous voulez reprendre l'expression plus propre à Matthieu. Son évangile met l'accent sur la grâce manifestée aux humains. L'actif dans le jubilé, c'est le Seigneur. Également, il redonne une place notoire à toutes sortes de catégories de pauvres. Hein, et en rentrant à Jéricho, rappelle Luc, il délivre un aveugle. Hein, et puis un autre aveugle, là dans le taille, s'appelle Zachée. Pas aveugle au sens physique. Il s'intéresse aussi, Luc, aux femmes, aux pécheurs, aux païens. Luc a regroupé le fruit de ses enquêtes et présenté tout son évangile de la vie de Jésus en 3 étapes. Hein. Tout d'abord, l'étape galiléenne, c'est le chez-lui de Jésus, hein. Galilée. Ensuite, le voyage vers Jérusalem, du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19. De tous les évangélistes, c'est lui qui passe le plus de temps sur cette étape de voyage. Et précisément, notre passage se situe à la fin du voyage vers Jérusalem, hein. D'accord? On est à cette charnière et puis ensuite il y a tout ce qui suit à Jérusalem, intronisation du roi, but du voyage. Nous savons que là, l'attend le procès de la croix, mais également sa résurrection et son ascension à la droite de Dieu. La parabole des mines que nous avons lue, appelée mine, j'expliquerai tout à l'heure, est placée à l'intersection entre la fin de l'étape 2 et Jérusalem. Alors là, il nous faut maintenant justifier le fait que nous lisions l'épisode de la rencontre de Jésus avec Zachée en même temps que la parabole. Souvent, on les sépare. Et je crois que le texte ne nous autorise qu'à moitié. Nous avons été intrigués de voir que l'évangéliste donne quelques précisions qui nous permettent de les considérer ensemble et qui prennent sens ensemble. Luc, lui-même, tout d'abord, fait un lien entre la parabole que nous avons lu, et l'épisode de la rencontre de Jésus avec Zachée, en disant au verset 11, « Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua avec la parabole. » Ou littéralement, « Comme la foule écoutait ces paroles, en ajoutant, il dit une parabole. » Il ajoute quelque chose pour qu'on comprenne bien et qu'on ne comprenne pas de travers. Ou « En insistant, il dit une parabole, comme il venait de dire ces paroles. » Jésus ajoute ou insiste, toujours est-il qu'il le fait suite aux paroles adressées à Zachée en présence de la foule. Il est difficile de l'imaginer. Jésus, Zachée, le troupeau de ses disciples, en route, Et il dit cette parabole. Tout au plus, peut-on comprendre que la parabole s'adresse à tous. La deuxième raison, plaidant pour le fait que ces deux textes peuvent être lus ensemble, c'est qu'il y a un bon nombre de thèmes communs aux deux passages. Le salut, le royaume de Dieu, le voyage, le comportement des partenaires, la royauté, le fait d'aller chercher la royauté, le fait d'être établi sur des villes avec une responsabilité, Zachée est chef. Le thème de la gestion des biens. Troisièmement, enfin, le fait qu'il se rapprochait de Jérusalem et c'est dit dans le texte, on s'imaginait toutes sortes de choses. Hein. Les attentes populaires déplacées du temps de Jésus, il y en avait. Comme il peut en exister aujourd'hui, nous le voyons souvent hein, quand nous discutons les uns avec les autres. Qu'est-ce qui est déplacé? Qu'est-ce qui est selon le royaume? Et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Verset 11. Donc cette parabole avait pour fonction de corriger un malentendu qui pouvait naître suite à la parole donnée à Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison et qui pouvait naître suite aux effets du salut qui est rentré dans la maison de Zachée et qui était impressionnant. Les espérances nationalistes étaient en l'air. Lié à l'œuvre de Jésus, on pensait voir ça ensemble, les attentes populaires étant de nature essentiellement clanique, centrées sur leur salut, leur préférence. Alors parlons de la rencontre de Jésus avec Zachée à Jéricho. Cette rencontre a lieu à Jéricho. Grande oasis et ville commerciale, un peu plus bas. De Jérusalem, 20 km vers le bas, direction Mer Morte. Vous y êtes? Donc il n'y a pas grand-chose à escalader pour être intronisé, pensaient les disciples. C'est la même ville où, bien des siècles plus tôt, Rahab, la prostituée, avait reçu les émissaires de Josué, elle aussi, dans sa maison. Jésus y provoque la rencontre avec un homme, chef des publicains ou péager, c'est la même chose. Péager, publicain. C'est pareil. Cet homme est archi-péager. Un chef des péagers. Donc, un personnage important dans la hiérarchie du système de collecte des taxes. En somme, le patron de plusieurs collecteurs d'impôts, s'il vous plaît, quatre barrettes. Il portait le nom de Zachée, sans doute d'origine juive. Quelle mission avaient ces douaniers et publicains? Il nous faut nous souvenir que du temps de Jésus, la Palestine, c'est un morceau de terre syrienne sous la domination de Rome. Avec, à sa tête, non un roi, parce qu'il n'a pas réussi à dégager le titre de roi, mais un procureur romain. Celui de Judée, là, à cette époque-là, s'appelait M. Pilate. Sa grande affaire au procureur romain était d'assurer la rentrée de l'impôt et prévenir des troubles. Ça, c'est sa compréhension de la volonté de Dieu. La collecte des taxes directes était remise aux mains de fonctionnaires romains, mais les indirectes étaient affermées et donnaient lieu en Judée aux excès que ce système d'exploitation traîne derrière lui partout. C'est là une phrase de Charles Guignebert, un expert du monde juif au temps de Jésus. On disait communément de cette race d'hommes qu'ils volaient. Et l'évangile, selon Luc, le dit deux fois au moins. Il volait. Cela provenait sans doute du fait que, pour postuler à cette charge de péager, pour y arriver, ils devaient payer de très fortes sommes d'argent et qu'ils entendaient bien rentrer dans leurs fonds et le plus rapidement possible. En effet, les postes étaient mis aux enchères par les Romains. Il était également notoire que les recours légaux pour les habitants, en cas d'abus de la part de cette race d'hommes, était quasiment inexistant. Beaucoup commettaient des exactions. C'est pourquoi les publicains avaient si mauvaise réputation, tant en Grèce du temps du Nouveau Testament qu'en Palestine. Ils étaient généralement haïs, d'une part parce qu'ils étaient voleurs, et d'autre part parce qu'ils étaient à la solde des païens. Ainsi, ce genre d'hommes gagnait des richesses matérielles et perdait des richesses véritables. Ces taxes étaient foncières, payées en nature. Aussi personnelles. Il y avait les taxes sur les revenus, sur le bétail, l'impôt à l'importation, l'impôt à l'exportation, les péages au passage des ponts et à l'accès au marché. La totale. On imagine bien l'impatience du petit peuple sans terre, nombreux, je dirais classiquement nombreux dans les situations où il y a de la tyrannie. Exaspéré devant ce type de comportement scandaleux, d'autant plus que c'est un des nôtres. Jésus est allant, va à la rencontre de Zachée. Mais cette indignation est-elle justifiée? Cette indignation, somme toute, devant Jésus et devant Zachée, est-elle justifiée? Elle l'est, dans la logique d'une religion légaliste. Elle l'est. Dans la logique d'une religion ascétique, elle l'est. Dans la logique d'une religion nationaliste, elle l'est. Mais dans la perspective du royaume de Dieu, elle l'est pas. Cette perspective qui cherche à conquérir les cœurs et les situations, elle n'est pas du tout justifiée. Et les gens n'avaient pas compris dans la foule. Aux yeux de cette foule qui, en somme, ne comprend pas la mission de Jésus venu chercher Zachée, et au travers de lui beaucoup d'autres, et sauver Zachée, perdu. Le maître Jésus est coupable de haute trahison, soupçonné d'adopter, de cautionner une position de compromis avec l'exploiteur. Alors ces gens, oui, réduits finalement à la misère et qui avaient perdu leur terre pour payer leurs dettes, n'aiment pas ses collaborateurs, non plus ceux qui les fréquentent. Jésus, pourtant, appela même à l'apostolat, rappelez-vous, monsieur Matthieu, chargé de recueillir les taxes à Capharnaüm, à l'apostolat. Nous pourrions longuement parler du fait que, selon l'Évangile, Zachée était petit de taille et que la foule des admirateurs de Jésus l'empêchait de voir Jésus. Drôle d'impuissance, hein? Nos légalismes et dureté de cœur empêchent effectivement bien des personnes à être touchées et à goûter au royaume de Dieu. Pas mal de personnes désirant voir Jésus comme Zachée, le voir passer parmi d'autres, à l'exemple de Zachée, ont rencontré un sauveur qui désirait rester et transformer. On se demande ce qui se serait passé si Zachée ne s'était pas mis sur le chemin de Jésus avec la ferme intention de voir ce dernier. Mais cette intention, précisément aux yeux de Jésus, avait déjà valeur de recherche sincère. Déjà. Et Jésus décode cette attitude. Le regard de Jésus croise celui de Zachée, regardez versets 3 à 4, et Jésus exprime son intention de façon impérative, rappelant l'autorité divine, « Il faut, en l'appelant par son nom, que je loge chez toi. » C'est une règle de l'hospitalité, c'est la raison pour laquelle je disais une des règles économiques de la sainteté économique consiste à ouvrir sa table à quiconque en aurait besoin et pourrait en jouir. C'est le lieu de la koinonia par excellence. Le rapport est celui d'un homme libre, Jésus, envers un homme créé à l'image de Dieu. Sans qu'interfère la fascination de l'argent et du pouvoir et du statut, c'est Jésus l'homme libre. Jésus demande même que Zachée descende en hâte de son arbre, et ça illustre tout un symbole de l'orgueil lié au statut social derrière lequel quantité de personnes se rangent. Descendre, la nécessité de parler cœur à cœur, il faut, dira Jésus, pour illustrer la volonté de Jésus de sauver ce qui était perdu, que je demeure dans cette maison. Cet impératif du Seigneur illustre l'amour qui place ses priorités et qui voit les personnes derrière les apparences et les statuts parfois impressionnants. Alors regardez cette transformation. Par deux fois, nous le verrons, Jésus étonne. La première fois, en permettant que le royaume de Dieu atteigne Zachée, et la seconde, en le donnant d'une certaine façon en exemple avec la parabole. Et c'est Zachée qui fait fructifier son argent en le gérant d'une manière juste et dans la bonne perspective. La relation d'amour de Jésus pour cet homme bouleverse la donne. La restauration qu'il opère est appelée ici justice et un petit peu plus loin, salut. Des pauvres, il va également en être question dans cet épisode, et c'est notre thème, lorsque Zachée affirme au verset 8 qu'il donne la moitié des biens d'un riche aux pauvres. Et s'il, comme si c'était une condition, a extorqué de l'argent à quelqu'un, il lui rendait quatre fois plus. Les pauvres, ptokois, dont on a entendu parler hier, en grec, inclut toutes sortes de pauvres, des faibles économiquement, les nécessiteux, les déshérités, cette catégorie de gens. Alors, ce changement fondamental, il faut bien en parler, eut lieu dans le cœur de l'homme riche. Au lieu de se replier sur lui-même, il pratique maintenant la justice, la charité fraternelle, la sainteté économique ou la koinonia, assumant ses responsabilités envers les marginalisés et les floués, sans doute nombreux. Cette charité rattrapait-elle le manque à gagner, expérimenté par les pauvres? Parce que lui, Zachée, ça fait quelque temps qu'il n'a plus expérimenté la règle jubilaire? Ou l'année sabbatique? C'est pas dit. Toujours est-il qu'à nos yeux, il a fait plus que le nécessaire. Cette attitude fait dire à Jésus, le salut est entré dans la maison. Verset 9. Jésus ne tergiverse pas, il ne s'agit pas ici d'une expérience ascétique exigée par Jésus, car l'attitude de Zachée ne détruit pas la joie de Zachée. C'est pas de l'ascétisme, on ne paye rien. Les joies simples et belles de la vie, au contraire, c'est la perspective, l'espérance liée à ce Jésus qui est le Messie et le royaume qui vient, qui a touché sa vie. Nous retenons que là où Jésus est reçu comme roi, une justice de ce type s'instaure également sur le plan économique. Et vous savez, les légumes et les rôtis dans la bouche de Zachée devaient avoir retrouvé beaucoup de saveur. La narration ne nous dit rien sur ce que Jésus a dit. Pour que le cœur de Zachée soit bouleversé, sans doute ce dernier savait-il déjà passablement de choses sur les paroles et les actes de Jésus, parce que finalement, il est habitué de fréquenter les portes de la ville où se donnent les ragots, les rumeurs et les nouvelles. Il est venu et il a inauguré son ministère, dira Luc en disant « Je vous annonce une année de grâce de la part du Seigneur, de renvoyer libres les opprimés, de proclamer une année de grâce du Seigneur. » Luc 4. Avant la venue de Jésus, il y avait face à Zachée, dans la ville, des complices ou des juges. Et il en faut moins pour qu'un humain ressente le mordant cruel de la solitude et de la superficialité. Il avait beau pouvoir payer les meilleures écoles pour ses enfants et utiliser la plus belle monture de la région, cela ne remplit pas le vide existentiel du cœur, vous le savez. Oui, un Messie prend l'initiative, sans faire de comptabilité par rapport au péché. L'irruption de la grâce. Probablement que sa conscience, Zachée, l'accusait suffisamment. Il était un fils d'Israël, il connaissait comme tous les Juifs de cette époque-là, au moins la loi. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, la volonté de Jésus de loger chez Zachée correspondait à une offre de grâce. Le repas offert est proposition de communion dans ces pays. Une offre de grâce du pauvre vers le riche, du libre vers l'esclave. Mais il est intéressant d'examiner ce que Zachée entreprend. Dans la hâte et dans la joie, cette attitude contraste avec celle juste avant du jeune homme riche qui quitta Jésus tout en étant pieux, mais profondément attristé, car il avait de grands biens. C'est l'anti-jeune homme riche. Car rappelle-lui qu'il avait de grands biens et il était plus attaché à ceci qu'au royaume de Dieu. Alors regardez la réaction de Zachée. Zachée prend position devant la foule, en fait, au verset 8, lorsque les verbes sont dans un futur quasi immédiat. Ce sont en fait des verbes au présent, tellement ils sont futurs et immédiats. Je vais donner séant aux pauvres la moitié de mes biens. Je vais rendre, si j'ai fait tort à quelqu'un, le quadruple. C'est comme si c'était fait. C'est fait d'ailleurs, sur le champ. Zachée formule pourtant pas une confession de foi orthodoxe, en bonne et due forme autre que « je vais donner, je vais rendre ». Déjà, il répare et commence à investir dans les valeurs du royaume de Dieu, faisant à son tour de très nombreux heureux. Et c'est là que j'aimerais que vous ayez un petit peu une capacité d'imagination en travail. Changement fondamental d'éthique de la part du chef des impôts à Jéricho. La mention des extorqueurs, des extorcations, verset 8, ne doit pas trop nous étonner. Parce qu'il opérait des poursuites en justice. Et voilà que cet homme change. D'autre part, il fallait compter sur un prix de l'argent prohibitif à l'époque de Jésus, comme dit Ramsay MacMullan. Le livre de l'Exode prévoyait également que le vol d'un agneau, la restitution, devait se faire au quadruple. Ces considérations ne font que de relativiser légèrement ce qu'on appellerait la largesse de Zachée. Toutefois, elle est réelle, cette largesse. Zachée représente le type de personne de tous les siècles qui, bien que riches, aux yeux des humains, ont rencontré Jésus et son royaume et par reconnaissance ont décidé de mettre leurs biens au service du Seigneur. La sainteté économique. Jésus ne s'élève pas contre l'esprit d'entreprise, remarquez-le, la parabole nous prouve le contraire, mais contre la tentation de la richesse qui va jusqu'à l'accumulation, à l'attachement au bien. La solution n'est pas de choisir une petite vie moyenne évangélique. Nous avons tous à vivre ce que nous avons à vivre, là où le Seigneur nous place, mais de le faire en repérant ces tentations et en nous orientant résolument vers le prochain dans la misère, c'est tout autre chose. C'est cela, s'ouvrir soi-même à la grâce de Dieu, et c'est cela, aimer Jésus en retour. Du reste, en considérant les actions de Zachée, engagé dorénavant dans une vie plus fraternelle, il faut garder aussi la proportion des choses. Car la pauvre veuve au temple, vous vous souvenez dans l'évangile selon Luc, aussi, pardon, Marc au chapitre 12e, avait donné deux petites pièces, the widow's coin comme il les appelle, les petites pièces de la veuve. Et Jésus ajoute tout ce qu'elle avait pour vivre. De son essentiel et non de son superflu comme Zachée donne, même si c'est beaucoup. Et elle le fit, pensait-elle, elle croyait le faire en toute discrétion, loin du regard des hommes, nous dit Marc 12. Et Jésus la loue pour cela, disant qu'elle avait donné bien plus que toutes les fortes sommes que les riches avaient mises dans le tronc. Versets 41 et 43. La veuve avait fait un geste proportionnellement bien plus important que celui de Zachée. Néanmoins, Jésus considère l'attitude de Zachée comme significative de l'ouverture aux grâces du royaume de Dieu, significative de sa foi, et lui, comme sauveur et seigneur, comme Messie d'Israël, se savait reçu. Au début, Zachée tient à savoir qui est Jésus, et il va voir. À la fin, il l'appelle Seigneur Jésus. Verset 8. Dans notre société d'abondance, il ne nous vient rarement à l'idée que le choix d'une privation puisse être une option prise par amour. Sacrificielle, mais par amour et avec joie pour Dieu. Le publicain pécheur adopte une réaction généreuse. Le riche s'occupe des pauvres. Ici également, on peut parler de l'esprit du jubilé, je n'hésite pas à le dire. L'éthique économique préconisée par Jésus est une éthique de conquête de la relation, de restauration de la koinonia, souvenez-vous. Dans une situation, certes autonome, mais en relation favorable à autrui. Cela semble être une éthique de l'excès, comme je l'ai appelé au début, mais si l'on considère sa finalité, là où ça mène, elle ne peut plus être qualifiée d'excessive. Zachée, à son tour, voit dorénavant la joie que l'autre aussi peut expérimenter, puisqu'il a été touché par la grâce de Dieu. Le pauvre et celui qu'il avait extorqué pourront expérimenter cette joie. Alors, il faut imaginer. le soulagement économique de la cité de Jéricho. Beaucoup de familles à Jéricho qui n'avaient plus le nécessaire pour les enfants, ce qui rend fou les hommes et les femmes. Il faut imaginer des mères et des pères, des personnes marginalisées qui sont rétablies dans une certaine dignité économique pour s'acheter à nouveau le nécessaire. Beaucoup d'entre elles doivent être doublement étonnées et perturbées. Et ce n'est pas étonnant qu'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait faire immédiatement éruption. D'abord parce qu'une simple rencontre avec Jésus peut changer à ce point une personne réputée malhonnête et acariâtre, et ensuite à cause du bien que tant de ressources peuvent procurer lorsqu'elles sont offertes ou libérées ou remboursées, effet de la grâce de Dieu. Oui, il y avait de la joie à Jéricho. On ne pouvait s'empêcher de raconter d'où cela venait et pourquoi cela était arrivé. C'était, excusez-moi l'expression, c'était divin. Un peu comme si le royaume de Dieu faisait brutalement irruption. Alors, on s'imagine bien l'expectative de « si c'est comme ça déjà là, qu'est-ce que ça va être à Jérusalem ?» Et ça nous arrive, et nous arrivons à la parabole. Les gens autour de Jésus s'imaginaient qu'ils auraient bientôt le triomphe facile. Ils auraient part au pouvoir messianique sans trop être impliqués. Les prémices tellement extraordinaires de Jéricho nourrissaient certainement les espoirs déplacés chez certains auditeurs, espoirs qu'ils vont devoir corriger. Jésus va parler d'un prince qui s'en va et reviendrait roi. Il confie une tâche à 10 de ses serviteurs et à son retour demande des comptes, mes amis. À 3 d'entre eux au moins qui sont très représentatifs des attitudes des chrétiens de tous les siècles. Je soupçonne Luc d'avoir voulu rappeler ça à ses églises d'origine grecque. Voici l'ordre qui a été confié. Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. D'une part, la durée de l'absence indéterminée, c'est pas confortable. Et d'autre part, il faut déjà une certaine dose de confiance pour être sûr qu'il revient roi. N'est-ce pas, mes frères et sœurs croyants? Non seulement il rappelle qu'il est possible qu'un riche et à quelqu'un qui participe à un pouvoir inique et injuste se convertisse, mais encore, il dit à tout le monde qu'on est concerné au même titre. Ce récit appelé parabole, nous le voyons, est plus qu'une parabole, il est largement allégorique. C'est-à-dire que ces éléments qui la composent sont cohérents et apportent une précision. L'histoire que raconte Jésus dans la parabole du prétendant qui va se faire investir comme roi, Luc 19, est inspirée d'autres histoires plus anciennes connues de son temps. Hérode le Grand est aussi allé chercher la royauté. Son fils Archélaus a voulu chercher la royauté chez César, mais il n'a reçu que le titre d'ethnarque. Et il y avait effectivement une délégation de juifs qui disait « nous ne voulons pas qu'il règne sur lui ». Et croyez-moi que M. Archélaus a fait le ménage quand il est revenu. Quelle leçon tirer de cette parabole, mes frères et mes sœurs? Jésus va expliquer que lui aussi doit partir. Et en attendant qu'on a du boulot économique, si je ne m'abuse. En attendant, il mettait sur pied un programme pour croyants, donnant à chacun de ses serviteurs une somme égale à faire fructifier. Matthieu, lui, parlera d'autre chose, des sommes inégales. Égale, dit-il à la foule. La parabole des mines accentue non pas l'inégalité initiale, mais l'égalité initiale. Il s'agit d'un don. Chaque personne ou famille, dans cette logique, a une responsabilité de gérance. Mais Luc ajoute le rôle de Jésus comme juge eschatologique. Il va revenir et demander des comptes. Plus tard, après la mort de Jésus, les apôtres se souviendront. Et cette histoire, elle est d'actualité. Les analogies entre la parabole des mines et l'épisode de Zachée se poursuivent aussi avec la nature des récompenses. Le maître établi roi peut rétablir des personnes sur des villes. Zachée également a été établi sur la ville de Jéricho comme chef des douanes, mais cette fois-ci dans la perspective du roi Jésus. C'est piquant quand on s'en rend compte. Mais il y a rupture également, car du coup, ce n'est pas que Zachée qui est riche, mais tous les 10 serviteurs, tous les auditeurs croyants. Alors que représentent ces mines? Ou cette pièce d'or, ou ce que vous avez là symbolisé par le grain de maïs que j'espère que vous avez trouvé? C'est l'équivalent de 100 journées de travail. 4 mois de travail sans les fêtes spéciales, disons en Israël 5 mois de travail. Ça y est? C'est gentil comme cadeau. C'est quand même pas énorme. Les interprétations ont été diverses au cours de l'histoire. Il s'agit, nous le rappelons, de trouver l'équivalent d'un don donné à tous par le maître et que l'on peut augmenter par son travail ou cacher sans qu'il fructifie. Oubliez l'histoire du mouchoir là. Il n'y avait pas de mouchoir en Israël. On ne se mouchait pas dans du tissu. Mais enfin, on mettait les choses dans une pièce de tissu qu'on pouvait mettre quelque part, mais pas dans un mouchoir. Certains, et ils sont les plus nombreux, s'appuyant plutôt sur la parabole du semeur pour interpréter, et sur le récit de Matthieu, on suggérait qu'il s'agissait de la parole de Dieu. Et c'est beau, moi j'aimerais bien aller dans ce sens. Tu as entendu la parole de Dieu, tu la donnes à 10 autres qui l'ont reçue, qui à leur tour donnent 10 autres. C'est beau, j'aimerais bien aller dans ce sens. La proclamation du royaume de Dieu, le témoignage de la foi, et ça marche, vous pouvez, ça colle. Puissions-nous ramener 10 personnes qui sont touchées par la perspective du royaume de Dieu et de la sainteté économique qui est liée, et très vite le monde sera changé. D'autres ont encore vu les dons du Saint-Esprit, ça colle aussi. Chacun a donné un don différent à exploiter pour la gloire de Dieu. D'autres ont encore dit que c'est la vie dont dispose chaque être humain, Irénée, disons entre nous. D'autres encore, comme Chrysostome et plus tard Calvin, ont un sens très large et diront « Cette mine, c'est la capacité, à la fois intellectuelle, physique, le pouvoir économique et la disposition sociale. » J'aime bien, parce que ça colle avec ce que je suis en train de vous dire. Alors c'est pour ça que j'aime bien. D'autres enfin, comme Origène, y ont vu le fait d'agir et de vivre comme Dieu le prescrit. En fait, c'est pas déconnecté, si vous vous souvenez de l'enseignement d'hier. Vivre comme Dieu le prescrit et à mettre à disposition les capacités que l'on a, ça colle. Il est à remarquer que la pièce d'or du troisième serviteur lui fut retirée pour être donnée à celui qui en avait déjà dit. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que cette pièce symbolise le salut imputé. Mais plutôt, tout d'abord, ce dont on fait des ressources que l'on a, quelles qu'elles soient. Celui qui utilise bien ce qu'il en aura, la potentialité qui nous est confiée, c'est ce qui est en jeu. Mais vous savez, la générosité est contagieuse. Il n'y a pas que la violence et le mimétisme qui est concerné par la méchanceté. Tout ce que touche la bonne nouvelle de Jésus, l'amour de Dieu, la grâce, se transforme en or. Les pièces d'or peuvent être les choses de la vie mises à la disposition de Jésus et que nous avons tous à gérer, les biens matériels, mais également la personnalité, l'amitié, l'éducation, les potentialités, les finances, les dons musicaux, les artistiques, les visites de l'autre, la table à la maison, le sourire, la culture, l'amitié, bref. Toi, moi. Il faut gérer les biens qu'il donne en attendant, car le grain de maïs est comme la pièce d'or et les mines, ils produisent, ils se multiplient si on les met dans la terre ou dans la banque. Ils peuvent se multiplier et rendre beaucoup de gens heureux, c'est le même principe avec l'argent, bien qu'inerte, il est capable de faire des petits, vous comprenez ça? Et la question pour chacun et chacune d'entre nous est la suivante, quel sens donneras-tu à tes capacités, à ta vie? Est-ce qu'elles sont bien investies dans leur totalité, dans cette perspective du royaume qui s'étend? Et j'aimerais vous montrer la gravure colorée, à moins que ce soit déjà fait, d'un homme remarquable qui s'appelle Eugène Burnand. Il a gravé ceci avec la technique aux trois crayons. Regardez les serviteurs échantillons qu'on a. Oublions les 7 autres. Un don donne 10 heureux. Dans une ville. responsabilité sur 10 vies. Il a fait ses preuves. Un don donne 5 heureux, responsabilité sur 5 villes, capacité moyenne de travail, mais il faut le faire. Un don, mais est ramené, et il fut mis dans un mouchoir de l'oubli et du doute, car il n'avait pas confiance, il a vécu comme tout le monde, et cela lui fut ôté. Le premier, ceux qui manifestent une grande capacité de travail pour rendre des gens heureux tout autour d'eux dans la perspective du royaume de Dieu, ils font rentrer, eux, d'autres personnes dans la sphère de la koinonia. Dans 10 villes, comme Zachée qui s'est mis à distribuer et réparer de ses injustices lorsqu'il a compris la grâce de Dieu et le royaume de Dieu, il sera établi. Et le maître le félicite. Deuxièmement, ceux qui ont une capacité de travail moyen, dans le même sens, un serviteur a quintuplé, sans doute qu'il était dans de meilleures circonstances, le Seigneur ne lui fait pas de reproche. Un heureux a fait 5 heureux touchés par le royaume de Dieu, et le maître le félicite. Et ceux qui n'ont seulement sont restés inertes, vivant comme tout le monde, repliés, nécrosés dans leur foi, mais croient qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont reçu la pièce d'or à faire fructifier, mais au retour de roi la lui rend en disant qu'il ne l'avait au moins pas perdue. Ils sont déjà mieux que ceux qui la perdraient. Ils l'ont mise dans un chiffon et ne l'ont pas perdue. Gestion égoïste des dons de Dieu, la personne était repliée sur elle-même. Ses dons personnels, son éducation, son revenu. Et ils contestent même au roi le droit de revendiquer quoi que ce soit. Et on arrive au jubilé, à la notion de propriété de hier. À qui est la propriété? Cet homme-là, inerte, se justifie et même, terrible, accuse. Il croit qu'il n'a rien à se reprocher. Il a mis la chose en réserve et accuse même le maître d'être injuste. Il n'a pas pris du tout du risque messianique. Il est pour le risque zéro, le confort maximum, au moins dans l'immédiat. Relevons la nature de la récompense donnée par le maître aux 3 échantillons de disciples, ses serviteurs. Souvenons-nous que c'est en roi qu'il revient. Et c'est en roi qu'il se chargera de gouverner. Et comme tout roi, quand il arrive, ou comme tout élu, lorsqu'il arrive à son service, il a besoin de hauts dignitaires maintenant, des gens de confiance, éprouvés, qui connaissent les règles, qu'il aime, relatifs à la gestion des biens, parce que c'est de biens dont il sera question dans le monde à venir, il a besoin de personnes crédibles. Au dernier serviteur, le maître enlève ce qu'il n'a pas su ou voulu faire fructifier chez lui. La grâce n'a pas été suivie d'effet. Et le maître donne la pièce d'or en récompense supplémentaire à celui qui a fait fructifier la sienne 10 fois. Non seulement il reçoit la mise initiale, non seulement il reçoit les compliments, non seulement il reçoit 10 fois les mines, non seulement il reçoit la 11e en plus, ce qui fait 12, et il est encore établi sur une responsabilité de 10 villes. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont aussi généreux que notre maître. Il est difficile de savoir ce qui lui arrive en définitive à ce monsieur-là, ou à cette dame d'ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'il était honteux, pitoyable. Le maître ne lui confie pas les responsabilités supplémentaires. Remarquons qu'il conteste les droits du maître, et c'est là que ça devient piquant. Il est un mauvais croyant, il n'est pas un impie, hein. Il est un croyant, il est évangélique, ce n'est pas assez. Et il qualifie le maître de sévère. Ce dont il accuse le maître, il conteste au maître, comme le souligne Léon Morris dans son commentaire, l'enrichissement grâce aux efforts d'autrui. Tu n'as pas le droit de t'enrichir par mes efforts, Seigneur. Tu as juste le droit de me sauver. Seigneur, t'es exploiteur. Je ne sais pas donner, je ne sais que prendre. En fait, ce serviteur n'a compris ni le droit du maître, ni qui il est, ni sa bonté, ni son projet. Il reste, ni sa force non plus, parce qu'il en doutait. Et il n'a pas compris le sens de sa vie et de ses capacités. Il avait une fausse image de Dieu. Le maître porte un verdict sur ce serviteur sur la base de ses propres paroles, remarquez-le. Il aurait pu tout simplement porter l'argent à la banque. Alors on pourrait parler des banques, vous en avez sur tous les stands, mes amis. Faites travailler par d'autres. Si vous ne le voulez pas vous-même, et le Seigneur ne vous en aura même pas grief. Oui, c'est ça la banque, non? Bien des stands du centre évangélique donnent des occasions de comprendre ce que ces banques signifient dans la formation. Les gens qui collent à la misère d'autrui, et ils le font avec leur capacité en notre nom et du Seigneur. Ils ont besoin de soutien, pas que de l'argent, c'est sûr, c'est évident. Toutefois, c'est à l'égard des ennemis, et pas de cette troisième personne, regardez bien. Ceux qui avaient dit « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, qu'il sera prononcé la peine de mort lors du jugement eschatologique. » Verset 27. Remarquez que dans cette parabole, ce n'est pas dit au sujet du troisième gérant. Le châtiment des ennemis hostiles à la royauté rappelle par sa radicalité l'interdit dans la Bible. Ou même, dans une certaine mesure, le châtiment physique, mais pas spirituel, d'Ananias et de Saphira. On est en droit de se demander quelles catégories se rangeront les personnes, vous savez, qui murmurèrent contre Jésus. Il les responsabilise. Les deuxièmes et le troisième serviteurs, plutôt premier et deuxième dans la chronologie du texte, sont établis comme gouverneurs sur des villes. Vous me permettez un petit commentaire? On n'a pas fini d'être étonnés sur l'avenir. Certains ont pensé que les 10 villes représentaient même la décapole de Palestine. Il existe aussi des pentapoles d'ailleurs, dans l'Empire romain. L'important est de comprendre qu'il s'agit de responsabilités supplémentaires à l'échelle planétaire. Qui vous a dit que la Jérusalem céleste sera juste voguant dans l'air, indépendant d'une terre? Il y a des portes, non? Le roi donne toujours davantage à ceux qui le servent bien. Concrètement, il sait magnifiquement récompenser le travail dans la perspective du royaume. La récompense est royale. Le jugement est sans miséricorde, nous dira Jacques d'ailleurs, pour celui qui n'a pas exercé la miséricorde. Nous le savons, c'est une vérité clairement donnée dans l'Écriture. Il est important pour nous de retenir que, on se souviendra plus tard, dans la vie à venir, quelle que soit, et l'image que l'on s'en fait, de quoi que ce soit que les gens auront fait de bien dans cette perspective sur la terre. De quoi que ce soit. La parabole ainsi que les très nombreuses références traitant des récompenses vont dans ce sens. Il ne doit pas être étonnant que l'Écriture évoque le fait que les disciples soient appelés à régner avec le Christ, car de nombreux passages de l'Écriture l'attestent. Ces biens à venir nous permettront de mettre en œuvre tout ce que nous sommes capables pour le royaume de Dieu avec les moyens que nous avons à l'âge que nous avons, sans aucune retenue. Ici, il est question d'une gradation dans les récompenses, je vous y rends attentif, et nous pouvons nous en réjouir tellement en avance que cette attente nous libère aussi et contribue aussi à me libérer de l'avidité et de la tyrannie des plaisirs jamais satisfaits. J'aimerais ajouter cet élément aux 4 éléments donnés hier sur les motivations qui me poussent à lutter contre l'avidité. Cette libération me pousse à me réjouir de ce que j'ai reçu. Et en faire profiter aussi le prochain dans la dynamique du royaume. Mais également, ça me poussera à rire de ce que je n'ai pas. Et ça me libère. Mon identité ne vient pas de ce que j'ai. Je plains les retraités. Avec le docteur Paul Tournier dans le temps, je plains des retraités qui ont placé dans leur profession et leur pactole le but de leur vie parce qu'ils sont sans espérance. Nous avons une espérance, frères et sœurs. La dimension spirituelle, pour conclure, est inséparable de la dimension matérielle ici aussi. Dans le salut, Luc 14 nous l'a déjà dit. La parabole nous enseigne que la générosité est une responsabilité qui concerne chacun, chacune. Lorsque Jésus était entré à Jéricho, les choses étaient figées, nous disions. Lorsqu'il quitte Jéricho, les choses sont dans un rapport beaucoup plus dynamique dans la perspective du royaume de Dieu. Certains l'ont reçu, beaucoup ont été bénis, parce que des ressources importantes étaient à nouveau en circulation aussi parmi les pauvres et au nom de la messianité de Jésus. que l'on soit riche ou moins riche, pour tous compte cette parole de Jésus qui promet qu'on donnera encore à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Luc 19, verset 26. Quiconque le suit, le centuple déjà promis dans ce monde et dans le monde à venir, la vie éternelle, nous dira Jésus en Marc 10. Pour reprendre la manière de parler de Paul, je ne rends pas inutile la grâce de Dieu. Galates 2, 21. Je vous remercie pour votre attention.